Christina Michaud est dans nos studios, députée de Avignon, La Métis, Matane, Matapédia. Bonjour.
Bonjour, Madame Michaud.
Merci de me recevoir,
oui.
C'est gentil.
Première rencontre ici à CFIX, j'espère que ce ne sera pas la dernière, à moins que la réforme là, de la carte électorale qui s'annonce.
Mais quand même, c'est pas de
votre comté.
Ben, c'est pas tout de suite.
C'est pour les prochaines élections.
C'est pas pour tout de suite, mais quand même, on commence à s'inquiéter. Puis ça a commencé l'année dernière déjà avec une première proposition de redécoupage électoral. Donc, on va jouer avec les lignes de territoire un peu partout au Québec. Puis il y a une seule circonscription qui disparaît de la carte, c'est la mienne.
Oui.
Et c'est une des plus grandes territoires à couvrir au Québec, une partie de la Gaspésie, une partie du Bas-Saint-Laurent, quand même assez grand, avec des grands défis. On est une région ressource, beaucoup de kilomètres à parcourir aussi.
Oui.
J'ai déjà 4 bureaux de circonscription pour offrir un service à la population, parce qu'on sait que le gouvernement fédéral, offrir ses propres services, c'est pas toujours facile, hein, que ce soit avec Service Canada, les passeports, l'immigration, l'assurance-emploi. Il y a toujours des ratés dans le système ou des dossiers qui se perdent ou qui se tablettent quelque part. Donc, on offre ce service-là à la population. Alors, si on a un territoire encore plus grand à couvrir, c'est pas super facile et pas facile pour les citoyens aussi. Donc, ça, on va avoir des nouvelles à la fin janvier. Donc, début 2023, on devrait pouvoir en entendre plus. Les citoyens se sont fait entendre, les élus aussi. Il y a eu une belle mobilisation, élus municipaux, provinciaux, fédéraux. J'avais fait une lettre ouverte qui a paru dans les quotidiens, la presse, le Journal de Montréal, tout ça, les journaux locaux aussi, et beaucoup d'élus, une trentaine, signaient cette lettre-là pour dire que ça n'a pas de bon sens que l'Est du Québec perde de son poids politique, parce que c'est de ça qu'on parle
et
aussi.
Et c'est énorme, là.
Et ça fait longtemps que c'est commencé aussi, là.
Ben oui,
dans les années 60.
Déclin.
Oui, c'est ça. Puis alors que la population recommence à augmenter dans l'Est du Québec.
Ben exactement.
En Gaspésie, tout ça. Donc, on nous arrive avec une affaire de même.
C'est un calcul pratiquement que mathématiques, ce qui nous a été proposé. Ouais. Et on se fie justement au déclin démographique des dernières années. Mais on n'a pas regardé les derniers chiffres les plus récents où on a des gens qui reviennent. Et la pandémie aura eu ça de positif. Des gens qui se sont dit, je quitte la ville, je reviens en région.
Il y a même des gens qui étaient de la région qui se sont en allés en ville. Puis qui sont revenus.
Absolument. Donc, il y a ces éléments-là à prendre en compte aussi, et pas seulement la mathématique de la chose. Et oui, il y a moins de monde peut-être qu'en ville, mais c'est très grand, c'est des régions ressources. On produit pour le reste du Québec, même du pays, même on exporte à l'international nos ressources. Donc, je pense que il y a une sensibilité à avoir pour ça. Et si on parle de la représentation politique, mais là, entre Montmagny et les îles de la Madeleine, on n'aurait que 3 voix, que 3 représentants, peu importe le parti. C'est une perte démocratique, moi, je trouve.
Et la chose, c'est que c'est pas la première fois, là.
Non, c'est pas la première fois.
Ça serait pas la première coupure, là. Alors, quasiment, peut-être pas à toutes les élections, mais on en perd de plus en plus.
Oui, il y a des réformes.
Il faut quand même arrêter, là, à un moment donné. Là.
Ben c'est ça. À tous les 10 ans, il y a un calcul démographique. Mm-hmm. Et là, on essaie de refaire un petit peu la carte électorale pour que le nombre d'électeurs soit similaire dans chaque circonscription au Québec. Mais ce qu'on dit, c'est prenons pas juste cet élément-là en compte, l'élément démographique ici, parce que c'est beaucoup plus que ça, les gens d'ici. Alors, vous parliez de ça, de le déclin. Et la perte de service, c'est ce qu'on a vécu à l'époque. Il y avait 5 députés dans l'Est du Québec.
Oui,
là, on est rendu à 4. Là, on propose d'aller à 3. Et la perte de service, les bureaux de Service Canada qui ferment, moins en moins de services dans à peu près tous les domaines. Alors, on est un peu tanné de se battre contre ça. Puis c'est encore, on joue dans le même film. On se bat encore pour dire, on aimerait ça rester sur la map. C'est carrément ça.
Le fédéral, auparavant, ça employait beaucoup de monde dans la région. C'est rendu presque une peau de chagrin. Les édifices sont vendus, sont fermés. On loue des locaux. On dirait qu'on abandonne les régions, tout simplement.
Et la preuve, vous voyez qu'ils viennent d'ouvrir, ça fait pas longtemps, un bureau des passeports à Rimouski. Et puis, une affluence incroyable. Il y a eu des statistiques qui ont sorti dernièrement. Ça veut dire qu'il y avait un besoin. Ça veut dire qu'il y a plusieurs besoins avec des services fédéraux qu'on ne doit pas perdre.
Absolument, les passeports c'en est un. Et je dois saluer le travail de mon collègue Maxime Blanchet de Jonca. Et les délais se sont tellement améliorés aussi depuis qu'on a un service proche. Les gens fallait qu'ils partent d'Amqui, Matane, Rimouski pour se rendre à Québec,
et même
plus loin pour avoir un service. C'est pas normal. On paye des taxes et des impôts. On est supposé avoir droit au même service que ceux qui sont en ville ont droit. Donc je pense que se battre contre ça, on devient de plus en plus tanné. Mais il faut continuer parce que les gens d'ici méritent les mêmes services qu'ailleurs.
Oui. Concernant ce qui s'est passé à Ottawa, là, dans, lors de la dernière session, votre association aussi là, avec le parti de Jack Meeting et le Bloc et tout ça, est-ce que vous... je pense que l'opposition ne contrôle pas le gouvernement Trudeau, mais en tout cas, vous avez réussi à faire passer des choses que probablement que si vous n'aviez pas été là et qu'il n'y avait pas eu cette association-là, là, cette union de l'opposition, même avec les conservateurs dans certains dossiers, faut le dire, il y a plusieurs bonnes nouvelles là, qui sont sorties d'Ottawa.
Ben absolument. Je pense qu'un gouvernement minoritaire, c'est une bonne nouvelle pour toute la population parce que les gens, je pense qu'ils sont mieux représentés et justement, les oppositions, peu importe les idéologies, sur certains dossiers, on peut s'allier, que ce soit avec les conservateurs, que ce soit avec le Parti libéral, le NPD, on peut se rejoindre, mener des batailles, justement, pour le projet de loi qui a été adopté récemment. Une très belle victoire pour tous les partis. Tout le monde s'entendait et ça, c'est les plus beaux moments à la Chambre des communes quand tout le monde s'entend sur quelque chose et veut travailler dans le sens du monde. Et c'est ce qui a été fait pour protéger le fonds de retraite des travailleurs en cas de faillite de l'entreprise. On sait que la pandémie a été extrêmement dure pour plusieurs entreprises. C'est des, je pense que 50 000 entreprises au Québec en ce moment sont au risque de la faillite. Donc, on l'a connu par le passé, des gens qui se retrouvaient le bec à l'eau quand l'entreprise fermait ses portes du jour au lendemain et voyaient leur fonds de retraite s'envoler en fumée. Là, ce sera protégé. Alors ça, c'est un beau gain. C'est un projet de loi qui avait été déposé par le Bloc québécois. Je pense que le NPD l'a déposé une autre année. Ça réussissait jamais à passer. Là, c'est les conservateurs qui l'avaient déposé, mais avec un beau travail de l'opposition, puis ça a été adopté. Donc ça, c'est des beaux gains. On entend souvent l'opposition chialer après le gouvernement, mais des fois, il y a des belles choses qui se passent.
C'est comme il y a eu
une réforme aussi avec l'assurance chômage, étant donné que dans les régions, un peu comme ici dans l'Est du Québec, et en Gaspésie, il y a beaucoup de pêcheurs, il y a beaucoup de gens qui sont des travailleurs saisonniers. On avait besoin, même si c'est pas ça s'est pas amélioré comme on aimerait l'avoir, au moins, il y a eu un certain gain qui a été fait de ce côté-là.
Mais pour l'assurance emploi, on peut pas crier victoire encore, malheureusement. Depuis 2015 que le gouvernement de Justin Trudeau promet une réforme de l'assurance emploi, c'est toujours pas fait. Il y a eu des mesures temporaires qui ont été mises en place pendant la pandémie qui pratiquement, là, ça marchait mieux que le programme normal. Et à quelques jours d'avis seulement, ils ont décidé d'enlever ça. Et là, les gens, les travailleurs saisonniers, n'avaient pas cumulé le nombre d'heures suffisant pour recevoir leurs prestations auxquelles ils avaient cotisé. Alors, ça démontrait encore une fois à quel point le système était mal adapté aux régions comme la nôtre, qui est saisonnière. Vous parliez de la pêche, l'industrie touristique aussi, l'industrie forestière, très présente dans notre région.
C'est vrai.
C'est pas les travailleurs qui sont saisonniers, c'est le travail qui est saisonnier. Donc, on peut pas leur dire, allez vous trouver un autre job le reste de l'hiver. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Les gens ont des expertises. Donc, ça, je vous dirais que c'est mon souhait pour 2023 qu'on cesse de parler du trou noir de l'assurance emploi et qu'on règle enfin ce programme-là. Puis, je pense que ça va prendre des programmes qui sont adaptés aux différentes régions et pas du mur à mur à la grandeur du pays. Parce que ce qui se passe en Alberta, c'est pas la même chose que chez
nous. Mais par contre, en ce qui concerne là, le chômage pour les personnes atteintes de maladies graves, là, ça, il y a eu amélioration, même si c'est loin d'être parfait. Là.
Absolument.
On passe là, de 13 à 26 semaines.
C'est très bien. Écoutez, nous, on demandait 52 semaines. Puis c'est pas exagéré parce que, imaginez quelqu'un qui a le cancer, qu'il y a une récidive, qui doit passer des semaines à la maison, dans les rendez-vous médicaux, à l'hôpital, tout ça, et qui
a
pas
frais,
assez de semaines pour s'en
remettre. Déplacement, des choses comme ça.
Alors, c'est un beau gain d'aller jusqu'à 26 semaines, mais je pense que c'est pas exagéré.
Et le chômage? C'est 55% du salaire, là. La personne n'est pas riche
exactement,
à cause qu'elle est sur le chômage, là.
C'est pas le salaire complet, puis dans des conditions difficiles, quand on parle de la santé, évidemment, mais il semble que c'est pas un luxe, là, de devoir arrêter de travailler parce qu'on est malade. Donc, je pense que c'est un beau premier pas, 26 semaines, je pense qu'on pourrait aller plus loin.
Et pour la session qui s'annonce, là, il y a des gros défis aussi, là.
Absolument, des gros défis en environnement, je vous dirais. Il y a tellement tout le temps quelque chose dans l'actualité que la crise climatique, on la met un peu de côté, mais elle est toujours là, il faut s'en occuper. Il y a eu des belles conférences internationales récemment, la COP27, la COP15, j'y arrivais en début de semaine de Montréal. Donc, des beaux engagements, des cibles ambitieuses que les pays prennent, protéger 30% des territoires, des eaux d'ici 2030. On a toujours les cibles de réduction des gaz à effet de serre qui sont en vigueur. Là, c'est la mise en œuvre, c'est la prochaine étape. Qu'est-ce qu'on va faire pour y arriver? Le Canada est un pays pétrolier, donc il faut composer avec cette réalité qualité-là. Mais si on garde toujours la mentalité de produire plus puis de pas faire attention à la production, ben on y arrivera pas. Alors ça, ce sera la prochaine étape, puis on pourra mesurer le succès de ces accords internationaux-là à la mise en œuvre. Alors
oui, c'est ça, parce que c'est beau là de signer des beaux accords là, puis de travailler jusqu'à 3-4 heures du matin avec la Chine surtout là, qui était là, présidente là de cette COP là. Mais lorsqu'on arrive pour appliquer ça là, lorsqu'on veut protéger par contre des nouveaux territoires puis créer, agrandir un parc marin et tout ça, qu'est-ce qu'on fait là avec les gens qui vivent à l'intérieur de ça? Est-ce que ça va être un nouveau forillon? Est-ce qu'on va finir par mettre du monde à la porte là, de leur village pour supposément protéger la faune et tout ça? C'est l'application de ces choses-là. C'est loin d'être fait, ça, là.
Exactement. Il y a des sous qui doivent être mis sur la table. Un, puis travailler en collaboration, comme vous le dites, avec les gens qui sont déjà sur le territoire. Oui. Et c'est bien beau, les grandes annonces, mais quand j'entendais M. Trudeau et M. Guilbeault, je pense que c'était à la deuxième journée de la COP, dire on va ajouter des centaines de kilomètres en
d'air
territoire
protégé,
d'air protégé, 800 millions de dollars, super belle annonce, mais on n'exclut pas le fait de peut-être exploiter ces territoires-là pour aller chercher des ressources naturelles, que ce soit le lithium, nickel, pétrole. Donc là, à quoi ça sert de protéger un territoire, dans le fond, si on l'exploite? Parce que si t'es pas protégé de l'exploitation, t'es pas protégé de grand-chose, tant qu'à moi.
Ouais.
Donc, faut pas parler des deux côtés de la bouche non plus. Hein. Quand on s'engage à quelque chose, faut respecter ses promesses, respecter l'ambition qu'on se fixe. Et c'est pas nécessairement ça qu'on voit depuis le début avec ce gouvernement-là, malheureusement. Donc, les défis sont grands pour la prochaine année et les prochaines années.
Oui, mais on parlait de lithium aussi. On va en avoir besoin si on veut électrifier le transport.
Ben absolument,
c'est ça, là, c'est
partie.
La poule ou l'œuf. Là.
Il faut trouver le juste milieu qui est bon dans tout ça. C'est pas évident, mais quand même, il y a un travail énorme à faire. On est conscient qu'il faut améliorer des choses, mais on est conscient qu'on a des besoins de l'autre côté. Alors, je pense que le gouvernement a un travail à faire, justement, pour bien faire les choses.
Exactement. Il y a toujours l'équilibre à trouver et je pense que la population est prête à faire les efforts et les fait déjà. Là, on a vu une belle collaboration de la population à la maison. Là, tous les petits efforts qu'on fait pour l'environnement, ça, on recule quelques années en arrière.
Oui,
on récupérait
loin de
pas
ça,
trop,
là.
Puis le compost, on savait pas ce que ça mangeait en hiver. Ça, on le fait. Maintenant, on a besoin de plus grandes actions à l'échelle nationale par les gouvernements.
Et c'est
donc
là que les actions peuvent commencer à faire mal aussi, là.
Exactement.
Parce que là, ce qu'on a vu, ce qui s'est passé avec les récupérations, là, puis les conteneurs chargés qui arrivaient en Inde, là, puis qu'on ouvrait ça, là, je peux te dire que j'en ai lu des choses là-dessus, là.
Ben,
on récupère, là, mais on se débarrasse probablement, puis on pèle ça dans la cour des autres, là.
C'est un défi, puis il y a justement un projet dans la Matapédia et la Métis pour un nouveau site d'enfouissement, pardon, et ça fait pas l'affaire de tous, et on peut comprendre, mais en
Choisissez
même temps, quand on envoie nos déchets sur un autre territoire. Il faut comprendre qu'à un moment donné, eux, ils peuvent refuser de recevoir nos choses. Oui. Donc, faut s'en occuper aussi, trouver des façons de le faire dans l'équilibre puis dans le respect de tous, évidemment.
À part ça, il y a les transferts en santé avec le fédéral. Là, il y a eu une rencontre avec M. Legault, M. Trudeau. Ça semble avoir bien été. Je sais pas si on a discuté de tout ça, mais semble-t-il que les amours, sans être revenus, là, les relations seraient déjà plus chaudes qu'elles l'étaient là, il y a une semaine. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est de ça ou les transferts en santé?
Bon, semble-t-il que M. Legault était satisfait de sa rencontre, tant mieux. Mais moi, si j'avais été à sa place, je me serais rendue là un peu fâchée parce que ça fait plus de 27 mois que les premiers ministres des provinces, du Québec aussi, ont demandé unanimement à ce qu'on transfère les sommes à Québec. On sait que c'est une compétence provinciale, donc la santé, ça relève des provinces. Le rôle que le gouvernement fédéral a à jouer là-dedans, c'est simple, c'est de transférer l'argent.
Oui.
C'est pas plus compliqué que ça. La grande partie des taxes et des impôts s'en va à Ottawa, donc une part de financement qui revient au Québec et aux provinces. Il n'y a pas son mot à dire dans les normes à imposer, les conditions à imposer. C'est pas le fédéral l'expert dans la santé, c'est Québec. C'est eux qui savent où aller chercher les médecins, les infirmières, tout ça. Donc, je pense qu'il faudra encore mener cette bataille-là au retour des fêtes pour qu'enfin on puisse avoir le financement qu'on
mérite. On pourrait en jaser encore longtemps.
Oui, en 30 secondes, vos priorités pour 2023?
Ben écoutez, on va se retrouver retrouver au cœur, encore une fois, du projet de loi sur les armes à feu. Oui. Je sais que ça tient à cœur à beaucoup de personnes ici, des chasseurs notamment, qui sont inquiets, et je les comprends de l'aide. Donc, on va travailler pour avoir le meilleur projet de loi possible, adopter quelque chose de raisonnable. Et évidemment, l'environnement, ça demeure une priorité. Faire rouler l'économie chez nous. Bref, on en a plein.
Ben, c'est pour ça que vous allez revenir nous voir, madame.
Ben, avec grand plaisir.
Et bonne chance et merci d'avoir été là.
Et meilleurs vœux, hein, pour la nouvelle année. Joyeux Noël à toute votre équipe.
Joyeuse fête à vous aussi.